Bienvenue sur Mediapart. Contre le chômage et la précarité, on n'a peut-être pas tout essayé. C'est du moins ce que défendent les promoteurs de deux solutions qui sont en circulation dans le monde intellectuel et surtout politique. D'une part, le revenu universel d'existence. D'autre part, la garantie d'emploi vert. Pour échanger sur ces propositions qui ont le mérite de déplacer le débat à gauche sur des questions de fond, sur des questions économiques et sociales, je reçois deux invités. Sophie Taillé-Polian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sénatrice du Val-de-Marne et coordinatrice pour le parti Génération. Et à vos côtés, Alexandre Wizil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes socialiste et présidente d'une think tank hémisphère gauche. Sophie Taillé-Polian, vous appartenez à un parti donc qui défend un revenu universel d'existence autour de 750 euros par mois, on détaillera tout à l'heure. Benoît Hamon, qui est donc à l'origine de Génération, en a fait l'objet d'un ouvrage récent, ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour un revenu universel. Et Alexandre Wizil, vous avez défendu avec un autre think tank, l'Institut Rousseau, la proposition d'une garantie d'emploi vert qui se traduit par la création d'un million d'emplois. En tout cas, c'est ce qui est défendu à travers un site, une note qui sont en accès libre. On va le voir s'afficher. Et c'est une proposition qui a été reprise par 9 maires de grandes villes, des maires PS et écologistes, dans une tribune au journal du dimanche. L'édition qui a précédé le jour où on enregistre cette émission. Alors, pour commencer et pour un peu dresser le tableau, préciser de quoi on parle, je vais vous demander à chacun de présenter très brièvement le principe de la proposition que vous défendez, et puis ensuite on rentrera dans le détail. Je commence avec vous, Sophie Taillé-Polian, sur qu'est-ce que c'est le revenu universel d'existence.
Alors, le revenu universel d'existence, c'est donc un revenu qui soit au moins légèrement supérieur au seuil de pauvreté, qui soit donné à chacune et à chacun.
De façon inconditionnelle.
De façon automatique et inconditionnelle. Alors, comme il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le revenu universel, je voudrais aussi dire ce qu'il n'est pas. Il n'est pas un solde de tout compte, c'est-à-dire qu'il n'est pas une aide sociale unique pour tout le monde pareil. Il est un socle qui permet à chacune et chacun de pouvoir bénéficier de droits en fonction parce qu'il est uniquement parce qu'il est citoyen ou citoyenne. Mais il peut être assorti en fonction de la situation des uns ou des autres. Par exemple, si on a un handicap, d'allocations supplémentaires, complémentaires, qui là seraient conditionnées. Il n'est pas non plus une politique sociale globale et unique. Il doit bien entendu être accompagné, je ne sais pas, par exemple, de mesures d'encadrement des loyers, de services publics financés à hauteur des besoins, etc. Voilà, c'est une pierre dans la construction d'un nouveau système social, mais ce n'est pas évidemment une réponse unique, parce que sinon ce serait finalement une manière par le bas de parler de protection sociale. C'est pour ça que parfois le revenu universel est défendu par les libéraux.
C'est ça. Et notre version
n'est absolument pas dans cette logique-là. C'est une version émancipatrice. Mais j'y reviendrai, je pense, après.
Voilà. Ouais, alors, solde de tout compte, c'est une formule que j'ai retrouvée sous votre plume ou celle de vos collègues. Mais avant qu'on ouvre le débat, Alexandre Wizil, je vais vous demander, vous, de nous présenter ce terme qui est un peu plus récent dans le débat public français, en tout cas, que le revenu universel, cette idée de garantie d'emploi et garantie d'emploi vert.
Oui. Donc nous, on propose en fait de créer en effet un million d'emplois, à la fois sur les métiers de la transition écologique et sur les métiers du lien, en les réservant aux personnes qui sont privées d'emploi depuis plus d'un an. Donc c'est un premier jalon vers la garantie de l'emploi. La garantie de l'emploi, c'est le fait que l'État, en dernier ressort, offre à temps choisi, à ceux qui le souhaitent, un emploi en CDI dans l'idéal, mais ce qui est l'horizon qu'on trace et qu'on dessine, mais un emploi. Donc pourquoi les personnes qui sont privées d'emploi depuis plus d'un an? Parce que à partir de là, ça commence à être difficile, vous commencez à être un peu démoralisé, et puis côté employeur, évidemment, il y a une forme de stigmate qui commence à s'installer autour de votre candidature, et donc ça devient, vous avez besoin d'un filet de sécurité qui vous ramène vers l'emploi.
Le chômage de longue durée,
exactement.
Dont il est difficile de sortir.
Exactement, c'est le chômage de longue durée qui concerne quand même près d'un million de personnes, ça dépend comment on calcule, mais au moins un million de personnes dans notre pays. C'est pour ça qu'on s'est donné comme objectif un million de personnes. Ces emplois, maintenant, quels sont-ils? C'est des emplois dans l'économie circulaire, des récupérateurs de matériaux, des recycleurs, des réparateurs d'objets du quotidien. C'est des emplois dans la valorisation de la nature, du maraîchage, l'agroécologie. C'est des emplois dans l'éco-construction, l'éco-cimenterie, dans la réhabilitation des différents bâtiments. Donc c'est ce type d'emploi que nous voulons créer. Un point sur le financement. Donc c'est un SMIC pour un million de personnes, ça veut dire 20 milliards d'euros. 1% du PIB, quand on sait ce qu'est la dépense publique dans ce pays, on se dit que c'est un projet réaliste et finançable. Et donc, c'est pour ça que ça nous semble très intéressant. On le fait autour de 3 dispositifs. Et j'en termine là pour cette petite présentation. 1, la généralisation de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, qui a obtenu des résultats remarquables. Dans 3 territoires sur les 10 où elle est expérimentée, on a atteint l'exhaustivité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne sur ces territoires qui demande un emploi, qui est en situation de demande d'emploi depuis plus d'un an. Des emplois dits aidés, moi j'aime pas ce mot, mais ça veut dire des emplois financés par la puissance publique, en tout cas largement subventionnés par la puissance publique dans le secteur privé et dans le secteur public majoritairement. Et puis pour des publics plus spécifiques, l'insertion par l'activité économique qu'on propose de booster. Et tout ça fait 1 million d'emplois créés dans ce pays. C'est le premier jalon vers la garantie de l'emploi qu'on propose avec notre initiative Emploi Vert pour tous. .fr pour ceux qui veulent regarder de plus en détail la proposition.
La promo est faite. Pour cette entrée en matière pédagogique, je vous propose de continuer, peut-être en expliquant, chacun à votre tour à nouveau, en quoi la proposition que vous mettez en avant, en quoi elle correspond bien, elle répond à des besoins aujourd'hui. C'est-à-dire, quand je dis aujourd'hui, évidemment, dans l'ère contemporaine, après 4 décennies de néolibéralisme, de concurrence généralisée, de dégradation du marché de l'emploi, pour le coup. Mais évidemment, en temps de crise sociale, étant donné la pandémie et toutes les conséquences qu'elle a et qu'on connaît et qu'on continue à documenter. Je commence avec vous à propos du revenu universel.
Le revenu universel, évidemment, il correspond parfaitement bien à la situation dans laquelle on est. Et surtout, cette idée, elle vient démontrer, enfin, quand on la pose et qu'on la compare à la réalité, on se rend compte à quel point, s'il y avait eu un revenu universel, on aurait évité des files d'attente interminables pour avoir juste accès à des repas, des gens qui se retrouvent du jour au lendemain en grande précarité, surtout parce que ce ne sont pas aujourd'hui des salariés protégés.
Ouais, ce que vous dites, c'est qu'il y a des trous dans la raquette par rapport aux nombreuses aides qu'il y a eu pendant les confinements.
Des nombreuses aides. C'est-à-dire qu'on a aidé les salariés avec le chômage partiel. Et d'ailleurs, on se rend compte dans le discours du gouvernement que la baisse à venir des allocations chômeurs, des précaires, elle vient pourquoi ? Elle vient pour financer la dette Covid, créée par le fait que l'UNEDIC a financé une partie du chômage partiel. Donc c'est aux plus précaires qu'on propose, qu'on demande de régler la facture d'aide aux salariés. Donc nous pensons qu'effectivement, il y a une nécessité d'éradiquer la pauvreté dans ce pays. D'éradiquer la pauvreté. Et le revenu universel, ce n'est pas que cela, mais c'est aussi, bien entendu, cela. Éradiquer la pauvreté et sortir d'un système où aujourd'hui les gens qui peuvent avoir des droits au RSA ou à d'autres minima sociaux, on les met dans une situation terrible d'aliénation avec un système qui, je vous le dis, qui est humiliant. Où on doit tout le temps venir se justifier, tous les 3 mois. Justifier de ses ressources, extrêmement intrusif sur son emploi du temps, et qui met les gens, c'est pas seulement le chômage qui met les gens dans une grande difficulté psychologique et de se dire qu'est-ce que je suis dans cette société, c'est aussi tout un système conçu pour dire ok, on va vous donner un peu, mais va falloir quand même vous justifier tous les 4 matins. Et ça, c'est la raison pour laquelle le revenu universel, par son automaticité et son inconditionnalité, il est un ferment pour davantage de respect mutuel de tout un chacun dans la société. C'est un des éléments, il y en a d'autres, on y reviendra.
Ouais. Alexandre Wizy, je retrouve un peu des choses quand même que vous défendez au tout début de la note quand vous soulignez que le chômage, évidemment, ça provoque des désastres à la fois individuels et collectifs.
Oui, bien sûr, il n'y a pas que des divergences entre nous, il y a des points évidemment de convergence.
Je ne considère pas que ce soit.
Tout à fait d'accord avec vous. Oui, c'est une mesure qui est à la fois actuelle et inactuelle. Vous l'avez rappelé, ça fait 40 ans qu'on vit, qu'on accepte de vivre dans des sociétés de chômage de masse. En 1979, dans notre pays, il y avait 5% de chômeurs. On a peine à imaginer ce que ça veut dire. Il n'y avait pas de chômage. Les gens ne connaissaient pas le chômage. Il était seulement frictionnel entre 2 métiers. C'était un autre monde totalement que celui dans lequel on vit. Maintenant, pour revenir à la crise et à votre question. Et là, je partage le diagnostic qui est fait. C'est-à-dire que le « quoi qu'il en coûte » a été une mesure remarquablement efficace pour protéger les gens en CDI. Et les fonctionnaires sous statut, évidemment, mais pour protéger, si vous voulez...
Les insiders, comme disent
exactement,
les économistes.
Exactement, les insiders. Ce môle central, qui est de moins en moins grand, d'ailleurs, de la société française, dans lequel vous aviez, en effet, un filet de sécurité sociale tout à fait massif. Mais en même temps, ce qu'il faut regarder, c'est que l'emploi intérimaire a chuté de 200 000 emplois au premier semestre, que les entrées en CDD ont baissé de 35%, et que les entrées en CDI ont baissé de 25%. Et donc pour nous, évidemment, la garantie de l'emploi, le fait de venir à ce moment-là pour offrir des emplois dans des secteurs de la transition, là où on a des besoins évidents, parce que cette crise qu'elle a montré, c'est aussi que tous les besoins non satisfaits qui existaient dans l'économie et tout le besoin de travail et d'emploi qu'on pouvait avoir. Donc pour nous, ça montre quelque chose de très important. Donc il y a la crise maintenant, et puis il y a le moment où la mer va se retirer. Pour l'instant, dans les tribunaux de commerce, vous voyez ce qui se passe. Ça ne dépose pas le bilan. Mais on anticipe quand même très fortement que dans les prochains mois, quand les aides vont commencer à partir, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont tomber. Et il faut qu'il y ait une solution pour les salariés à ce moment-là. Et de notre point de vue, la solution, elle passe forcément par le travail, les collectifs de travail. Parce que ce que cette crise a montré, c'est que les étudiants et toutes les personnes qui se sont retrouvées en situation difficile, ce n'est pas qu'un problème de revenus, c'est un problème d'isolement. C'est le fait de ne pas être dans un collectif humain dans lequel ils peuvent s'exprimer. Et pour nous, le travail reste, disons, ce collectif central. Alors, dans lequel on trouve à s'exprimer.
Nous voilà. Y sommes, et je vous laisse la parole, parce que c'est un échange, mais aussi un débat. C'est intéressant de peser à la fois les ressemblances et les différences entre les propositions. Et je me tourne toujours vers vous, Alexandre Wizil, parce que des offensives ont été lancées de votre côté, si j'ose dire, dans une tribune pour Libération avec Chloé Ridel. Vous vous opposez assez frontalement, quand même, la garantie d'emploi que vous défendez au revenu universel. Hein, dans le titre de la tribune, ça apparaît, ça apparaît ensuite dans le texte. Qu'est-ce qui vous paraît critiquable ou pas assez crédible dans le revenu universel et qui fait que vous penchez plutôt vers la garantie d'emploi qui, si on vous lit, est non seulement prioritaire, mais mieux en fait que le revenu universel?
D'abord, juste pour corriger ce point, on a commencé par dire dans cette tribune qu'il y avait un même élan fraternel dans la proposition de revenu universel. Et j'ai noté également que Benoît Hamon a parlé de notre proposition en disant que c'était un sirop pour la toux. Donc voilà, je veux dire, il y a eu des petites escarmouches des deux côtés. Non, la vérité sur le fond, et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'il y a un diagnostic différent qui est mis en place des deux côtés de la table par rapport à ce que sera l'avenir. D'un côté, vous avez une vision, et j'ai lu avec grand intérêt le livre de Benoît Hamon qui est à bien des égards très intéressant. Vous avez une vision de l'avenir qui est de dire il va y avoir un chômage technologique massif, une déshérence du travail, une disparition ou un amoindrissement progressif du travail. Et du coup, on a besoin d'apprendre finalement à vivre avec le chômage de masse, avec cette soupape de sécurité qu'est le revenu universel. Nous, de notre côté, je vous laisse répondre, juste pour dire nous, quel diagnostic on porte sur l'avenir. On ne pense pas du tout qu'il va y avoir un chômage technologique massif. On pense au contraire que les besoins de la transition, l'agroécologie, il y a plein de secteurs dans lesquels on va devoir remplacer de l'économie carbonée par de l'économie humaine, par de l'énergie humaine.
Ouais, vous dites, hein, le travail est en quantité inépuisable, je vous cite, bien le sûr. Problème c'est l'emploi.
Exactement. Mais l'emploi, comme on l'a dit, dans les métiers de la dépendance, dans les métiers de la transition, on en a besoin. On a besoin de répondre aux besoins sociaux via l'emploi. Et donc, nous, notre proposition, c'est le point de départ, c'est qu'on n'a pas exactement ce même diagnostic, à mon sens, sur ce que sera l'avenir du travail. Nous, on est persuadés que l'ère qui s'ouvre est une ère, c'est pas la fin de l'histoire sociale, c'est une ère où il y aura besoin de travail, besoin d'emploi, pour répondre à l'ensemble des besoins sociaux. Et on a des mesures, comme Territoire zéro chômeur de longue durée, qui montrent qu'on peut créer de l'emploi dans un espèce de tiers secteur, entre le secteur public et le secteur privé, qui serait une forme de secteur coopératif et qui accompagnerait la transition.
Non mais sur cette histoire de la centralité du travail.
Déjà, il faut juste préciser quelque chose, ouais. Puisque visiblement, parfois on aime bien laisser penser que le revenu universel et la vision de Benoît Hamon, c'est une vision de. C'est une promotion de l'oisiveté. Mais pas du tout. Et évidemment que le travail au sens de l'activité socialement utile, il y en a partout, les besoins sont immenses. Et l'activité qu'on peut développer et qui ne soit pas rentable, elle existe partout. Et ce n'est pas parce qu'elle n'est pas rentable qu'elle ne doit pas être réalisée. Et aujourd'hui, dans notre société, où tout est matricé par l'idée de marchandisation, quand on ne peut pas transformer quelque chose en marchandise, donc ce n'est pas rentable, ça n'existe pas et ça ne vaut pas la peine d'être fait. C'est cette idée, je crois, qui est commune entre l'idée de la garantie d'emploi telle qu'elle est développée, notamment aux États-Unis, de manière beaucoup plus vaste que la, la mesure que vous proposez et qui est issue de cette réflexion, mais qui n'en est, comme vous le disiez, qu'un premier pas. Et c'est ça, effectivement, je crois, que ce que Benoît Hamon voulait dire dans le sirop pour la toux, c'est des emplois aidés, en plus grand nombre et mieux payés, c'est extrêmement bien. C'est tout à fait intéressant et intelligent, hein. Il y a pas du tout de difficulté à le dire. Mais en termes de vision globale, ce qui est intéressant, c'est que en fait, avec ces deux mesures, on dynamite la marchandisation du travail, où on fait comme si travail et emploi, c'était la même chose, alors qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup, sans être rémunérés. C'est un travail gratuit, qu'on pense au travail des femmes, majoritairement, ou même au travail bénévole. Et ma foi, s'il ne rentre pas dans une relation de domination, hein, puisque du lien de subordination, de ce qu'est le... Eh ben, pourquoi pas? Moi, je trouve ça bien, le bénévolat, je trouve ça bien, le fait de pas être forcément dans une relation de subordination, mais pour autant d'apporter énormément à la société par cette activité qui est forcément d'intérêt général ou d'intérêt particulier, mais en tout cas qui apporte, qui fait du lien et du positif. Donc, il n'y a pas, je crois, de vision d'un côté où on serait pour la, on penserait qu'il y aurait une fin du travail, pas du tout. On est des êtres humains, homo faber, homo habilis, on fabrique, on fait, c'est bien cela qu'il faut mettre en avant. Et le revenu universel, en fait, il permet à chacun de construire de manière libérée, émancipée, comment il apporte à la société, quelle est l'activité dans laquelle il se reconnaît, dans laquelle il s'épanouit, et très rarement seul. Et je vous rejoins, l'idée du collectif est extrêmement importante. Émancipation individuelle et aussi émancipation collective, j'y reviendrai, parce que le fait d'exploser le marché du travail comme cadre unique et comme marchandisation de l'activité, bien, ça permet évidemment un formidable levier dans le rapport de force qui est aujourd'hui terrible entre le capital et le travail. Et ça permet au contraire de lever beaucoup de choses dans ce rapport de force, ouais, au profit des travailleurs.
Juste une petite précision, parce que parfois j'ai l'impression qu'il y a un flou. En fait, est-ce que, quand même, dans l'idée de revenu universel, il y a l'idée que le système actuel, tel qu'il fonctionne, en fait, ne fournit pas assez d'emplois aux gens pour vivre dignement?
Bien sûr.
En fait, là où, où j'ai l'impression que c'est un peu plus flou, c'est est-ce que vous considérez que même si ce système était changé, il y aura une difficulté à proposer des emplois? Ou est-ce que si on avait un autre système, peut-être qu'il pourrait proposer des emplois? Enfin, c'est... Sur cette idée de fin du travail, est-ce qu'elle est liée au système d'aujourd'hui?
Moi, j'ai pas parlé de fin du travail.
Oui, c'est vrai.
Y a pas de fin du travail. Il y a une énorme transition déjà à l'œuvre. Bon, et ces transitions, elles doivent s'accompagner par de nouvelles formes de protection sociale et de solidarité. Cette transition, elle passe de l'emploi actuel, absolument rentable et avec des méthodes technologiques qui sont encore là mais qui sont en train de s'effacer. Bon, petit à petit. Et quand il y a des grandes transitions, il faut penser des grandes protections. Moi, je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas d'emploi vert à venir, mais il y en a énormément, bien entendu. Et il faut que la société, elle se réorganise autour de ces nouveaux besoins. Les besoins du lien, ils sont déjà là et on le sait. Les besoins de la transition, on les voit émerger. Il faut les structurer les filières. Tout ça, ça prend du temps. Vous parliez notamment du recyclage. Bon, refaire en sorte que... Vous savez, j'étais il y a quelques années dans un pays ancien bloc de l'Est et il y avait des toutes petites échoppes réparatia. Vous voyez, réparation. Donc, mais tout ça, c'est des filières, c'est des initiatives, ça s'organise, etc. C'est pas d'un claquement de doigts. Donc, le revenu universel, il permet aussi la transition.
De protéger pour cette transition.
Trop protéger pour que chacun, je dirais, retombe sur ses pieds dans une activité où il se sente bien et où il apporte à la société. Parce que tout le monde le sait, les rares expérimentations, mais il y en a quand même de revenu universel. En fait, ne provoque pas une oisiveté.
Oui, les gens ne se tournent pas les pouces.
Non,
quoi,
parce que qui a envie de passer sa vie sur son canapé à rien faire? Je crois que personne. Oui.
Alexandre, bon, en tout cas, c'est pas un contre-argument qui a été utilisé ici, voilà. En tout cas. Mais Alexandre Wizil, sur peut-être la nature de cette protection, de cet outil, et en quoi est-ce qu'il vous semble pertinent, en quoi est-ce qu'il vous semble limité aussi cet outil du revenu universel?
En fait, si vous voulez, moi, l'idée qu'il y ait des revenus de matière subsidiaire, si on n'arrive pas à faire fonctionner correctement une garantie de l'emploi, si de manière subsidiaire, il y a un filet de sécurité qui est étendu. Aujourd'hui, le sujet, c'est de l'étendre à la jeunesse. Vous avez raison, il y a peut-être une question de niveau, mais C'est évident. La question de l'inconditionnalité, pour nous, elle est problématique. Pourquoi ? Parce que, très clairement, et l'histoire, en fait, je suis socialiste, vous l'avez dit, l'histoire du mouvement socialiste, là, du mouvement intellectuel, c'est un idéal d'émancipation par la justice. Et on cherche à corriger, de l'émancipation individuelle et collective, et on cherche à corriger les problèmes lorsqu'il y en a. Et l'idée qu'on va aller brasser des énormes quantités de revenus dans l'ensemble de la population pour répondre à des problèmes spécifiques comme nous on cherche à le faire en disant on va cibler les personnes qui sont privées d'emploi depuis plus d'un an. L'idée d'aller brasser des énormes quantités de revenus, déjà ça fait peur. Et en plus, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Si vous voulez, la sécurité sociale et la sécurité, elle ne va pas vous déposer un paquet de médicaments tous les jours que vous en ayez besoin ou non.
Non, mais elle
et
vous les rembourse que vous ayez les moyens de les payer ou non.
Exactement, mais quand vous êtes malade. C'est ça la différence. C'est qu'en gros, quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes au chômage, quand vous êtes en difficulté...
Quand vous êtes enceinte,
bien sûr,
vous n'êtes pas malade.
Bien sûr. Évidemment. Mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire.
En fait, c'est l'argument de l'universalité et de l'inconditionnalité qui vous pose problème.
Et en plus, j'aimerais quand même répondre deux choses, excusez-moi, qui sont intéressantes. Tout à l'heure, vous avez parlé du travail et vous avez dit si de temps en temps, on peut sortir de cette domination, etc. Dans le travail, il n'y a pas que de la domination. Il y a de la coopération. Le travail, c'est tellement plus que ça. D'ailleurs, les chômeurs, c'est quand même ça qu'il faut s'intéresser. Il faut regarder le tableau sur l'état de santé des personnes qui sont en situation de chômage. Vous avez des syndromes dépressifs en plus grand nombre. Vous avez des maladies de l'appareil circulatoire en plus grand nombre. Vous avez des maladies cardiaques en plus grand nombre. L'INSERM dit qu'il y a 14 000 personnes, on parle de la sécurité routière, moi je vous parle de la sécurité de l'emploi, il y a 14 000 personnes qui meurent. Du fait d'être au chômage chaque année. Donc nous, on considère que l'absence de travail, et c'est pour ça qu'on met notre action là-dessus, est une pathologie sociale. L'absence de travail est une pathologie sociale. Et donc il faut aider les gens qui le souhaitent à pouvoir travailler. Je rappelle que c'est volontaire et c'est à temps choisi. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est ça la mesure universelle. Et que subsidiairement, il y ait quelque chose qui vienne, un revenu garanti de base, bien sûr qu'on y est favorable, mais d'abord, ce qui est universel, c'est la garantie de l'emploi.
Alors, il me semble que quand même le point dur là, du désaccord, ce n'est pas tellement sur les questions de travail ou les mots sociaux que crée le chômage, c'est vraiment sur cette histoire d'universalité et d'inconditionnalité. Et du coup, je prolonge la question parce que c'est souvent les critiques qui sont faites aussi au revenu universel. C'est l'idée que ce serait une disposition, même si vous dites que c'est une carte dans une panoplie de solutions, hein, mais c'est une solution qui est parfois critiquée pour son côté individualiste. Là où d'autres disent, en fait, ce qui compte, c'est quelle réponse socialisée aux problèmes sociaux. Quoi. C'est cette fameuse idée de solde de tout compte que vous souhaitez récuser.
Ah que je rejette complètement, puisque vraiment l'idée qu'on promeut, nous, je sais qu'Emmanuel Macron a essayé de reprendre le terme revenu universel avec son
pour autre chose.
On reprend les aides sociales, on les rebidouille différemment. Non, et puis on en met un petit peu de côté pour les économies. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Bon. L'émancipation individuelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, on n'attend pas d'être en situation, d'être au chômage depuis un an, d'être déjà abîmé par la vie pour avoir des droits, le droit d'exister en dehors de la, et d'avoir les moyens de vivre en dehors de la pauvreté. Et en fait, c'est ça aussi qui me semble très important. Quand on a des politiques qui viennent aider des gens en difficulté, c'est bien. Évidemment, on est pour les emplois, les garanties d'emploi qui sont des contrats aidés ou l'insertion par l'activité économique. Enfin, c'est une nouvelle façon de les voir.
En fait,
c'est
des outils.
Bien sûr que je connais bien. J'ai défendu cette loi au Sénat. Je suis la rapporteure spéciale du budget sur laquelle il y a la ligne. Donc, bien entendu. Et je connais très bien le dispositif qui est super, qui est formidable et qui crée du lien. Mais si vous voulez, c'est le fait de dire on crée des choses quand les gens ont eu des accidents et qu'ils sont déjà abîmés. Nous, on veut revenir en disant l'humanité, elle a acquis et elle a construit un patrimoine gigantesque dont il convient de redistribuer à tout un chacun juste par le fait qu'il est là. Et donc, on confère à tous et toutes la même, l'équivalente dignité et l'équivalente justice, nécessité de dire, voilà, vous devez avoir les moyens de vivre dignement. Et donc, on n'attend pas d'être dans une situation où on vient tendre la main à quelqu'un en difficulté. On donne, c'est pour ça que c'est un projet d'émancipation individuelle extrêmement fort. On donne à chacun de se dire déjà, on ne va pas attendre d'être, excusez-moi l'expression, mais dans la merde noire. Et évidemment, dans ce que vous avez décrit, je vois très bien ce que c'est. Pour venir vous aider. Non, on va vous donner les conditions de la construction de votre projet de vie. À vous, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Et d'avoir un petit peu de temps et de visibilité. Vous savez, un des problèmes aussi majeurs, à la fois des chômeurs, mais des précaires qui cherchent encore un emploi ou qu'ils aient abandonné parce que c'est tellement difficile, et moi je leur reprocherai certainement pas, parce qu'on ne fait rien pour les aider. C'est aussi le problème de ne de pas arriver à voir au bout de la journée, de la semaine, du mois. Là, on a de la sérénité. Et quand on a de la sérénité, on peut construire sa propre vie. Et donc, c'est ça l'intérêt de la chose. Et après, il est évident que le revenu universel ne s'entend pas en dehors d'une profonde et globale redistribution des richesses. Donc, bien entendu, c'est un dispositif qui nécessite une révolution fiscale et donc de prendre aux plus riches et de redistribuer de manière extrêmement profonde. C'est sûr et certain. Et c'est en cela que c'est un projet qui est quand même extrêmement fort, extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'il replace les bases et chacun un petit peu sur la ligne de départ de la vie avec tout le monde a des moyens, tout le monde a une capacité d'eux. Mais c'est aussi un outil d'émancipation collective. Ça, je tiens à le dire parce que souvent, on nous reproche de dire « Ah ouais, vous êtes dans le libéralisme, l'individualisme, etc. » Moi, je viens d'un mouvement, enfin, je suis à Génération, mais j'étais au Parti Socialiste, et j'ai très fort attaché la culture du mouvement ouvrier et de l'émancipation collective. Mais le fait de chacun avoir les moyens de dire « Bon, alors en fait, moi, le ménage, aller faire le ménage à 6h du matin à l'autre bout de Paris, en fait, bah, je ne vais pas le faire, ou alors pas pour le même tarif, vous voyez ?» Donc en fait, c'est une façon énorme de donner des billes à tous les salariés, à tous les précaires et à tous les gens... À tous et toutes, en fait, au plus grand nombre, de pouvoir être dans un autre rapport de négociation. Après, vous disiez, le travail, c'est pas que la domination, bien sûr. Moi, je parle d'un truc juridique, hein, c'est le lien de subordination. C'est ça, aujourd'hui.
Le salariat, quoi.
Ah, voilà, le salariat, c'est, ou même le précariat, c'est le lien de subordination. Évidemment, c'est formidable de pouvoir... Mais moi, je défends que le travail, ça ne devrait pas être que ça. Et aujourd'hui, on est complètement avec des œillères où on s'empêche de voir... que le travail, c'est pas que ça. C'est finalement, à chaque fois qu'on fait un acte social positif, finalement, on donne et on apporte à cette société et que ça doit être reconnu. Et là, on sortira du côté le chômeur qui se sent coupable. Parce que je ne sais pas, dans la garantie d'emploi, enfin, dans la mesure, parce que la garantie d'emploi, c'est une théorie, vraiment, enfin, c'est un bout de la théorie monétaire, vraiment hyper intéressante. Ça dynamite beaucoup de choses, c'est vraiment passionnant. Mais attention aussi à pas avoir le chômeur. Bon, on va vous donner un emploi, mais quel emploi? Comment est-ce qu'on fait? Et moi, je serais vraiment hyper intéressée à bosser là-dessus, hein, pour dire si on fait des nouveaux emplois aidés, nouvelle insertion par l'activité économique, comment pour faire que ce ne soit pas de sous-emploi ou des sous-fonctionnaires ou des soucis ou des tout ça, et donc que finalement ce soit un emploi de seconde zone, parce que justement il faut surtout pas être là-dedans. Et il faut que tout le monde puisse trouver sa place. Bah, aujourd'hui, l'insertion par l'activité économique, il suffit d'aller voir aussi comment les choses se passent. Les gens ne se sentent pas dans l'IAE exactement de la même manière que s'ils avaient un CDI. Enfin, je veux dire, c'est évident. C'est juste parce que la différence existe.
Il y a la question des qualités de l'emploi, et vous vouliez réagir sur quelque chose en amont. Tout à
l'heure. Non, mais enfin, moi, juste un point quand même, parce qu'en fait, il y a de mon point de vue, on met dans le même sac la question du revenu de base et la question du revenu universel. Et vous l'avez dit, et c'est juste, il va falloir mobiliser des énormes quantités d'une révolution fiscale qui va manipuler des énormes masses de revenus, à tel point que les gens vont voir circuler pour en fait avoir un effet redistributif qu'on pourrait avoir en ciblant les aides vers les personnes. Je suis d'accord avec vous, il faut débureaucratiser le RSA, il faut faire en sorte que ce soit facile, que ce soit pas humiliant, que ce soit pas dur d'aller chercher ça. Mais pourquoi, au nom de quoi, donner 750 euros à Madame Bettencourt et aux personnes en difficulté de la même manière, en ayant donné l'impression qu'on rebattait l'ensemble des dispositions de la société? Ensuite, j'aimerais juste pouvoir continuer un petit peu sur ce point. Deuxième point, il faut que vous voyez que pour énormément de gens, et en fait pour notre Constitution, il y a une espèce de lien organique entre les questions de citoyenneté et les questions de travail. À l'alinéa 6 de notre Constitution, du préambule de la Constitution de 46, qui est dans notre bloc de constitutionnalité, il y a le droit d'obtenir un emploi.
Oui, dans la note, vous dites, nous, on veut rendre effectif ce droit au travail.
Voilà, on veut rendre effectif ce droit d'obtenir un emploi. Et c'est pour ça que lorsqu'on a fait, vous savez, on a fait un sondage récemment pour voir un petit peu où en était l'opinion sur les différentes positions qu'on pouvait prendre, il y a une adhésion très forte à la garantie de l'emploi parce que il y a cette idée que l'emploi et la citoyenneté sont des choses qui vont ensemble et qu'il faut les favoriser et les promouvoir dans un même élan. Donc vous avez 79% des Français qui sont favorables à des mesures de type garantie de l'emploi et lorsque vous allez pour revenu universel, parfois pour des mauvaises raisons, vous avez dit quand des questions d'oisiveté, etc., qui en effet sont absentes de vos raisonnements. Vous avez une adhésion qui tombe en dessous des 50%. Et ce qui est quand même le plus fort, c'est que la garantie de l'emploi, elle est populaire chez les classes populaires. Pour une fois, on a une idée qui est populaire chez les gens qu'on veut aider. Peut-être qu'on devrait les écouter et entendre que la priorité, parce qu'en plus, c'est beaucoup moins cher, c'est de, en tout cas sur la mesure qu'on propose de création d'un million d'emplois, parce que c'est beaucoup moins cher, parce que c'est un horizon temporel qu'on peut imaginer, il semble que c'est prioritaire de la mettre en œuvre. Ensuite, j'aimerais juste rajouter un mot, parce que j'ai quand même lu avec attention le livre de Benoît Hamon. Et vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas une vision du travail qui est une forme de disparition et de réduction. Il y a des pages entières qui citent des études qui sont maintenant datées, mais peu importe, qui disent que le travail tel qu'on le connaît va disparaître de 40%, qui disent qu'il faut mettre une taxation sur les robots, parce qu'en fait, comme les robots vont piquer le travail...
C'était à la présidentielle aussi, ça, la taxe robot.
Non, mais c'est dans son livre, c'est repris dans son livre, mais c'était à la présidentielle. Ce qu'on constate...
Vous gênerez qu'on taxe
les dividendes que les robots, parce que ça évite de taxer l'investissement. Mais juste,
on peut quand même taxer les gains de productivité qui sont produits par les robots.
Terminé pour
c'est quoi le problème? Parce qu'on va financer, il faut quand même financer beaucoup de choses dans notre pays. Il n'y a pas que la garantie d'emploi.
C'est pour ça que je vous propose de taxer les dividendes plutôt que les robots, parce que les robots, vous taxez l'investissement. Ce qu'on constate dans les faits, c'est que les pays où il y a beaucoup de robots, l'Allemagne, le Japon, la Corée, c'est des pays où il y a peu de chômage. Il y a une en fait, il n'y a pas de lien direct entre la robotisation et la destruction de l'emploi. Donc toute cette analyse-là, cette vision de l'avenir, c'est peut-être pas la vôtre, ça j'en conçois, je le conçois très bien.
En tout cas, c'est celle que Benoît Hamon... cherchait à opposer
non,
les
pas
choses.
Non, pas du tout. Mais pas du tout, parce que je vous dis, moi, la position de compromis qui consiste à dire il y a une garantie de l'emploi universel et il y a subsidiairement, pour les gens qui en ont besoin, un revenu qui les sort de la pauvreté, ça me va très bien. Vous voyez, ça me va très bien. C'est juste la question de l'universalité de ce que vous proposez qui me gêne. C'est tout. Le reste, on n'a pas vraiment de désaccord.
Alors, je vous laisse répondre quand même sur les deux... La robotisation, ça nous entraînerait peut-être un peu loin. Mais sur les deux premiers points qui ont été soulevés, il y a la première critique qui a été répétée deux fois par Alexandre Ouizil au fond. Vous faites une grande tuyauterie. Je crois qu'en pleine charge, le revenu universel, c'est 20% de la richesse nationale.
Mais ça dépend comment on le calcule. Il y a plusieurs options sur la table. Cas, il y a d'ailleurs des chercheurs qui sont en train de travailler sur d'autres options parce que il y a des options, par exemple, où pour éviter aussi qu'au-dessus d'un certain seuil de revenu, on ne le touche pas, en fait. Beaucoup de choses sur la table pour on gagne 20 000 euros par mois, on n'a peut-être pas besoin d'avoir 750 euros
Exactement.
Qui tombent en plus.
Exactement.
Mais par contre, on sait qu'on y a droit. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que si jamais il y a un accident de la vie, on sait que dans la société, on a le même droit de base que n'importe qui d'autre. Et donc, ça sort la personne qui va, elle, le toucher. Elle se dit finalement, j'ai le même droit que n'importe qui dans notre société.
Mais tout le monde a le droit au RSA.
Et ça.
Vous voyez ? En fait, tout le monde a le droit au RSA déjà. On peut le remonter, mais tout le monde y a droit.
Tout le monde a le droit, mais il y a, vous ne croyez pas qu'il y a un petit peu de culpabilisation là aujourd'hui
J'entends
autour de l'aide
ce que
sociale
je vous ai dit,
qui existe.
Je suis d'accord avec vous, mais il y aura de la culpabilisation
de
sur
la
revenu
façon,
universel.
Et de la façon dont on positionne les uns et les autres autour de tu as un emploi aidé, tu as ci, tu as ça, maintenant sois gentil.
Je suis d'accord avec vous, cette phrase de Mirabeau, la société française est une cascade de mépris.
Donc
je suis d'accord avec vous, faisons bien attention à ça.
Donc faisons bien attention à ça.
Mais le revenu universel souffrira des mêmes écueils.
Donc mais je ne crois pas, parce qu'en fait, c'est justement la question de l'universalité qui permet de répondre à cela. Après, pardon, j'ai un petit peu perdu le fil.
Il y avait un deuxième aspect, je vous laisse répondre là-dessus, et après on passe à la dernière partie de l'entretien. Le deuxième aspect qui a été utilisé, le deuxième argument était un peu plus politique, il dit au fond... notre proposition de garantie de l'emploi, elle correspond davantage au sens commun tel qu'il est aujourd'hui dans la société, alors que le revenu universel, à la limite, même si on était complètement d'accord avec vous, peut-être que vous êtes un peu trop en avance par rapport au sens commun, c'est une idée qui fait peur, y compris chez les milieux populaires. Alors ça, mais ça, c'est un argument qui est plus politique, plus basé sur des ressorts d'opinion, mais après tout, il a sa
Je voudrais préciser
qu'à Génération, nous ne sommes pas opposés à des emplois aidés, à financer davantage l'insertion par l'activité économique, à flécher les emplois aidés.
Ça, il en est très heureux, mais ce qu'il vous reproche, c'est flécher, de défendre une idée qui est un peu loin du sens commun. C'est ça son.
Non, mais à défendre l'idée. Non, mais je veux dire, parce que je pense que si Alexandre commençait à défendre la garantie d'emploi globale dans sa théorie globale, évidemment, ce serait tout à fait différent. Je ne suis pas sûre que ce serait aussi facilement compréhensible. Là, ce travail que vous avez fait, qui est très bien, hein, de cette théorie de sortir une mesure qui est une mesure en fait un peu améliorée de ce qui a déjà été fait par le passé, de ce qui existe déjà.
Oui, ce qui fonctionne.
Bon, voilà, c'est bien, mais c'est pas le même niveau de force et de projet émancipateur de donner des emplois qui n'est pas fait ou de ce qui est laissé parce que ce n'est pas rentable. Mais pourquoi c'est pas rentable et quels emplois réels vont être mis en place? Par exemple, vous disiez aux robotisations. Bon, aujourd'hui, il y a un mouvement immense dans la banque. Les agences ferment. Il y a quand même des emplois qui disparaissent. Bon, d'autres emplois vont naître. Tout ça, c'est de la transition. Bon. Je suis pas sûre que de tous les emplois que vous avez cités, quelqu'un qui était cadre moyen ou employé dans la banque, il va se projeter comme dans un quelque chose de positif d'avoir les emplois tels que vous les décrivez. Donc il y a aussi cette question de donner à sa place à chacun pour trouver sa reconversion là où il sera utile socialement. Bon, mais moi je suis pas du tout opposée à votre proposition. Et en fait les deux, y compris. Parce que finalement, il y a dans ces deux idées, revenu universel et garantie de l'emploi par l'État. L'État doit donner à tous et toutes du travail au sens emploi ou pas d'ailleurs, où chacun doit trouver sa place dans la société. Ce sont deux idées gigantesques et magnifiques. Gigantesques et magnifiques. Après, et donc faut pas les opposer. Je pense qu'elles peuvent très bien s'articuler. Et d'autant plus avec votre mesure, qui est finalement de cette grande idée, une mesure, elle ne doit pas du tout être opposée. Moi, je pense qu'elle peut tout à fait figurer avec une expérimentation du revenu universel et vos emplois aidés tels que vous les définissez dans le même programme présidentiel. Moi, je n'y vois pas vraiment de contradiction. Bien au contraire. Au contraire, je pense qu'il faut développer des emplois encadrés pour les personnes qui sont en grande difficulté parce que justement elles ont aussi depuis longtemps hors du travail, elles ont perdu l'estime d'elles-mêmes. Donc il y a évidemment des tas de choses à faire très concrètes sur le terrain et qui répondent évidemment aux besoins sociaux et aux besoins environnementaux. Et je ne crois pas qu'il faut chercher les différences et je pense qu'il y a beaucoup de complémentarité potentielle entre ces deux idées.
Quand vous disiez il y a des gens qui ne se projetteront pas dans les emplois que nous proposons, vous avez raison, mais il y a une réalité qui est que, si vous voulez, le taux de chômage, là où il est élevé, c'est même pas tellement sur les catégories intermédiaires, c'est même pas tellement sur SESP+, c'est en bas de l'échelle des qualifications, où vous avez un taux de chômage qui est de l'ordre de 15-16%. Donc c'est aussi...
Vous parlez pas des CSP+, hein.
Oui, non, mais c'est pour ça que je vous dis même.
Les gens qui sont au guichet de la banque, c'est pas des CSP+, c'est des employés.
Bien sûr, voilà. Mais même si vous voulez, quand le niveau de qualification commence à s'élever, les problèmes ont tendance à s'estomper et le taux de chômage a tendance à être bas. Mais vraiment, le problème se situe aujourd'hui. Après, peut-être demain, vous avez raison, il y aura un mouvement qui feront en bas de l'échelle de revenus. Oui. Moi, je le redis, c'est pas grave d'avoir un point de désaccord. Le point de désaccord qu'on a, il est simple, c'est sur le caractère universel de ce que vous proposez. Pas sur le fait que les gens aient un filet de sécurité sociale qui soit au niveau, qui les sorte du seuil de pauvreté. Ça, il n'y a pas de problème. Alors. Le problème, c'est le problème universel et le fait que, en effet, il y a une dimension aussi stratégique que vous avez pointée, c'est le fait que les gens ne veulent pas de ça. Ils ne se projettent pas là-dedans. Alors. Ils ne se projettent pas dans cette situation. Je vous laisse.
Il y a eu différents sondages.
J'essaye de tenir un peu des temps raisonnables. Donc, on va terminer quand même sur cet aspect stratégique. Moi, je voulais quand même vous poser une question à Alexandre Ouzil, elle a été soulevée déjà par Sophie Taillé-Pohlian. C'est qu'au fond, effectivement, votre version, enfin, vous avez dit, c'est une étape vers la garantie d'emploi. La garantie d'emploi, aujourd'hui, peut-être que vous la proposez, elle est réservée des chômeurs de longue durée. Vous dites que c'est des emplois SMIC horaire, ça reprend des dispositifs existants, mais la garantie d'emploi telle qu'elle est défendue par d'autres économistes, on va voir s'afficher le livre là, qui vient de sortir, La Découverte de Pavlina Tcherneva, c'est une version qui est beaucoup plus ambitieuse, bien qui sûr. Est financée d'une manière très différente, parce que là vous montrez que vous financez assez bien avec la société telle qu'elle fonctionne. Eux, ils disent on fonctionne par de la création monétaire. Chez nous, Romaric Godin a beaucoup critiqué, enfin présenté pardon, et expliqué cette technique, et il défend même, puisqu'il a, il a rédigé la post-phase de cet ouvrage, il dit finalement la garantie d'emploi, c'est un levier dans un sens anticapitaliste, en fait, vraiment pour sortir de la dépendance du salariat. Et c'est là peut-être qu'il y a un malentendu, parce que dans les maires qui signent votre proposition, Anne Hidalgo, Martine Aubry, on les voit pas défendre une déprise totale du salariat. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un caractère peut-être presque trop modeste finalement dans votre proposition et qui ne va pas jusqu'au bout de tout ce que pourrait permettre la garantie de l'emploi, c'est-à-dire un vrai changement de société.
Je pense que quand on se dit qu'on va créer 1 million d'emplois dans ce pays, hein, vous souvenez du petit pins du MEDEF, mais nous on le fait pour de vrai, de manière directe, etc. Moi, je n'appelle pas ça être modeste. Qui a fait ça? Qui a fait ça en termes de politique publique? Qui a créé, peut-être à part Lionel Jospin en son temps, qui a créé 1 million d'emplois dans ce pays? Qui? Personne. D'accord? Donc, ce n'est pas être modeste que de dire qu'on fait ça. Maintenant, sur le plan théorique, vous avez raison. Nous, ce qu'on veut faire, c'est montrer que ça fonctionne pour 1 million. Et si ça fonctionne pour 1 million, ça peut fonctionner pour tout le monde. Donc, on veut d'abord se donner le temps de généraliser Territoire zéro chômeur de longue durée en 5 ans, de montrer que la montée en puissance du dispositif qui fonctionne à partir d'un outil qui s'appelle le comité local de l'emploi. J'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais ouais. Ce comité local de l'emploi, c'est la mobilisation générale sur un territoire contre le chômage, d'accord ? Où on identifie les besoins non satisfaits et où on donne des emplois aux gens. On veut se donner le temps de montrer que ça fonctionne. Donc évidemment, on a une position gradualiste. Moi, j'assume totalement et je suis très content qu'on l'ait fait comme ça. On a une position, parce qu'on s'est posé évidemment des questions au moment de la rédaction de la note, on a une dimension gradualiste, on fait 1 million d'emplois. Et puis après, on voit demain comment on étend le dispositif pour en faire un dispositif plus complet.
Alors, dernier point que je voulais aborder, dernière question en fait qui vaut pour tous les deux. On retrouve l'aspect stratégique qu'on évoquait tout à l'heure. Au fond, vos deux propositions, aussi gradualistes ou ambitieuses soient-elles, comment on y arrive en fait? Avec quelle force politique? Avec quelle force sociale? Et surtout, en fait, comment on se prémunit, éventuellement grâce à ces forces, comment on se prémunit des résistances qu'il y aura? Puisque l'ambition... avec des atours différents, des moyens différents, c'est de sortir les gens de la dépendance, au fond, de l'emploi privé, en tout cas, le fait d'être vraiment dépendant du marché de l'emploi tel qu'il fonctionne aujourd'hui, sauf qu'il y a bien des gens que ça arrange, que les gens soient dépendants et n'ont pas leur mot à dire. Il y a des forces sociales puissantes, notamment du côté du patronat. Vous avez évoqué le MEDEF tout à l'heure. Donc eux, ils vont pas dire « super, la garantie de l'emploi, on va laisser passer ça tranquillou, le revenu universel aussi ». Il y aura des résistances très fortes. Comment on anticipe ça? Là, on est dans de la grave confrontation.
Je pense que, pour le coup, la garantie de l'emploi, de ce point de vue-là, elle a un avantage. Qu'est-ce que va dire ce que vous dites, les forces en présence?
Les forces de l'argent, comme on disait.
Oui, voilà, ou disons les forces qui sont les forces étrangères au progrès, voilà, ou au progrès social, appelons-les comme vous voulez.
Celles qui n'ont pas intérêt au changement.
Celles qui n'ont pas tellement intérêt au changement. Elles vont nous dire quoi? Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir dire quand on dit il y a des gens qui ont envie de travailler, vous promouvez à longueur de journée l'effort individuel, le fait de vouloir, etc. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous dire lorsqu'on leur dit il y a des gens qui ont envie de travailler, il y a des besoins sociaux en face, regardez, cette crise l'a montré de manière majuscule. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous dire? Rien. Ils vont pouvoir un peu réagir. En effet, je vous dis pas que tout le monde accueille favorablement ce qu'on est en train de faire, et même bien au contraire. Mais je pense que ce sera beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile d'expliquer que c'est une mauvaise mesure de donner un travail aux gens utile socialement, qui permet, parce que tout le monde, moi j'habite dans les Hauts-de-France, dans une petite ville, je suis élu local, je me fais engueuler de manière régulière parce que ici c'est pas suffisamment propre, ici ça, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des besoins partout de faire des choses, de compléter l'action publique, de compléter un certain nombre de choses. Donc, nous on est convaincus que, en fait, il y a dans la société, et c'est un petit peu ce que le sondage est venu conforter, il y a dans la société une volonté, une aspiration à ça, une aspiration à ce que les gens puissent s'épanouir dans un travail, et on pense que ce ne sera pas si difficile que ça d'imposer cette idée dans le débat, d'autant que, je le redis, 20 milliards d'euros. Qui peut dire que c'est infaisable quand il y a certains dispositifs qu'on a mis en place qui coûtent 30, 40, 50 milliards d'euros? Pas grand monde.
Sophie Taillé-Polian.
Non, mais je crois que c'est effectivement une mesure à mettre au sein d'un bon programme d'union de la gauche et des écologistes que nous ne désespérons pas d'obtenir. Que par rapport à un certain nombre de mesures d'aide aux chômeurs de longue durée, de renforcement des services publics, etc., je crois que, et face à l'offensive terrible d'un libéralisme qui se transforme en libéralisme autoritaire, la gauche a besoin de récits émancipateurs. Elle a besoin de grands horizons. Il faut aussi qu'on puisse remobiliser des gens qui ne croient plus en rien, qu'on peut se dire qu'il y aura un avenir ou de l'émancipation individuelle et collective, quel que soit le projet qu'on préfère. Voilà. Et je pense que c'est vraiment extrêmement important. Sinon, on ne remobilisera pas les gens. On a besoin à la fois de mesures concrètes, on a besoin aussi de grandes ambitions. Je crois que c'est ce qu'on doit aujourd'hui se construire, en disant on peut proposer une alternative qui est effectivement qui se déploiera dans le temps, court, moyen et long terme, mais pour véritablement changer le système, parce que les gens n'en peuvent plus de ce système, mais ils ne croient plus non plus à notre capacité à le modifier. Donc il ne faut pas être tiède, il ne faut pas être timide, il faut avoir la radicalité nécessaire, tant au regard de l'urgence climatique que de l'urgence sociale. Et il faut des grands projets, il faut qu'on se mobilise. Voilà.
Je vous remercie tous les deux. Merci à vous pour cet échange de qualité. J'espère qu'on aura rendu plus compréhensible à la fois ces mesures-là, en quoi elles peuvent soit être complémentaires, soit se distinguer. On n'a pas eu le temps de parler d'autres projets qui existent, un peu moins repris dans le champ politique, de salaire à vie, de garantie économique générale. Ça, c'est des gens comme Bernard Friot, comme Frédéric Lordon, mais ils sont déjà venus ici. Je renvoie aux vidéos de Romaric Godin qui sont disponibles sur le site de Mediapart. Je vous remercie de nous avoir suivis jusque-là et je vous donne rendez-vous sur notre site pour toutes nos émissions. Merci beaucoup.